RFI 9h30 à Paris, 8h30 à Libreville.
RFI Matin.
L'heure du journal de Pierre Boudias et l'heure du bilan pour la CEDEAO.
L'organisation ouest-africaine célèbre ce mercredi ses 50 ans d'existence. Parmi ses grandes réussites, la mise en réseau des systèmes de transport d'électricité. Comment améliorer le système politique sénégalais? La question posée aux participants des journées du dialogue national qui débute aujourd'hui. Formation politique et société civile appelée à réfléchir autour du bulletin unique, de l'organisation des élections ou encore du financement des partis. L'inquiétude des éleveurs nigériens à l'approche de la Tabaski. Le gouvernement a interdit les exportations de bétail en prévision de la fête religieuse. Les professionnels appellent l'exécutif à assouplir la mesure. Et au Togo, l'inquiétude sur le sort du rappeur Amron. L'artiste et activiste a disparu ces dernières heures. L'opposition affirme qu'il a été interpellé. L'exécutif ne confirme pas. La CEDEAO souffle sa 50e bougie ce mercredi. L'organisation ouest-africaine créée à Lagos le 28 mai 1975. Si son activité récente a été marquée par le départ du Niger, du Mali et du Burkina Faso, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest peut également se targuer de nombreux succès. Parmi eux, le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain ou WAP a permis de mutualiser la production et le transport d'électricité en Afrique de l'Ouest. 7000 km de lignes électriques sont à ce jour interconnectées, soit 4 TWh heures par an, le double de ce qui est échangé entre les pays d'Afrique de l'Est par exemple. L'objectif est d'atteindre 16 000 km de lignes interconnectées dans 5 ans, un succès qui pourrait cependant être mis en péril par la scission des trois États de l'AES. Les précisions de Claire Fage.
L'expert international en énergie Serge Diomann en est convaincu, le marché ouest-africain de l'électricité est à mettre au crédit de la CEDEAO.
Différents pays arrivent à mettre de façon communautaire leur production ensemble et il existe un marché qui est en train de se mettre en place sur la partie transport d'énergie. Des pays qui aujourd'hui sont moins nantis en termes de sources électrogènes de production peuvent acheter de l'énergie par le réseau de transport, notamment celui du WAP, qui est le West African Power Pool.
La CEDEAO, cadre de réglementation, a aussi facilité le financement des infrastructures électriques, estime Sylvie Maheu, ex-chef des investissements du département énergie de la Banque africaine de développement.
Comme la CEDEAO avait quand même ses connexions avec les bailleurs de fonds, ils ont pu aider à coordonner les investissements et à mobiliser plusieurs bailleurs pour appuyer le WAP et pour le faire grandir, en fait.
Selon cette spécialiste, le départ de la CEDEAO des États de l'AES ne remettra pas en question les interconnexions en cours d'achèvement, mais il pourrait compliquer les futurs projets régionaux d'ouvrages électriques.
Claire Fage, et des festivités sont prévues aujourd'hui à Lagos à l'occasion de ce demi-siècle d'existence. À suivre sur RFI avec notre envoyé spécial Serge Daniel et notre correspondant Moïse Gomis. Au Sénégal, c'est l'avenir du système politique qui est discuté à partir d'aujourd'hui. Ouverture des journées du dialogue national axé cette année sur la réforme de ce système politique. Jusqu'au 4 juin, les partis politiques sénégalais et tous les acteurs de la société civile intéressés vont plancher sur l'amélioration du système électoral et de la vie politique en général. À Dakar, les explications de Léa-Lisa Vesteroff.
Comment améliorer l'organisation des élections au Sénégal? Faut-il inscrire automatiquement tous les citoyens de plus de 18 ans au fichier électoral, prévoir un bulletin unique, ouvrir le vote aux détenus ou encore réduire le nombre de partis politiques et rendre plus transparent leur financement? Voilà quelques-unes des grandes questions auxquelles les participants vont être invités à réfléchir pendant une semaine. Après des assises sur la justice l'année dernière, cette édition 2025 est consacrée à la vie politique. Car malgré une troisième alternance démocratique réussie, le système politique sénégalais présente toujours des fragilités qui méritent d'être corrigées selon les autorités. Autour de la table, pendant une semaine, des membres du gouvernement, les organisations religieuses, les universitaires, les partis politiques et des organisations de la société civile. Parmi les grands absents, l'APR, le parti de l'ex-président Macky Sall, a décidé de boycotter les discussions. Il dénonce la série d'inculpations d'anciens ministres du régime Macky Sall et une thématique jugée non prioritaire alors que les Sénégalais attendent plutôt des mesures fortes sur l'emploi et l'économie selon eux. Léa-Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
En Guinée, le recensement biométrique qui devait se terminer le 31 mai est finalement prolongé jusqu'au 20 juin. Pour les Guinéens vivant à l'étranger, il aura lieu du 1er au 20 juin. Ce recensement servira à constituer le nouveau fichier électoral pour les scrutins à venir, dont bien sûr le référendum constitutionnel du 21 septembre et les élections prévues pour la fin de l'année. La cause du retard est due notamment au manque de kits et d'agents recenseurs, mais aussi au défaut de documents d'identité indispensables comme les actes de naissance, documents manquants chez un grand nombre de citoyens, ce qui ralentit les opérations. L'inquiétude maintenant des organisations d'éleveurs et organisations de société civile au Niger à l'approche des fêtes religieuses. Dans une lettre envoyée au gouvernement, des groupements de la région d'Agadez lui demandent d'intercéder en leur faveur auprès de l'exécutif. Elle souhaite un assouplissement de l'interdiction d'exporter du bétail, mesure prise par le ministère du Commerce il y a 3 semaines à l'approche de la Tabaski qui aura lieu début juin, mesure mise en place pour assurer l'approvisionnement du marché national. Agali Etey est président de la Fédération Ensemble pour l'élevage. Il demande à l'État de prendre les éleveurs en considération.
Nous avons essayé de sensibiliser les éleveurs par rapport à la souveraineté de la décision qui a été prise par le gouvernement. Mais au retour, les éleveurs nous ont remonté en tout cas des difficultés. La décision a été un peu brusque, si on peut le dire, sans aucune mesure d'accompagnement. Donc ils ont été surpris par la décision étant déjà loin. Elle a été prise au moment où il y a des éleveurs qui étaient déjà sur les frontières et qui étaient déjà sur les voies en allant vers les frontières concernées. Donc ces gens-là sont aujourd'hui bloqués dans différents points de frontières. Donc nous voulons assez qu'il y ait une mesure d'assouplissement qui va leur permettre au moins de revenir avec leur bétail pour qu'ils alimentent aussi les marchés locaux. Et aussi la plus grande conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les éleveurs disposaient d'une grande quantité de bétail qu'ils ont préparé, qu'ils ont entretenu pour cette période, qu'ils devraient aller vendre ailleurs. Et aujourd'hui, ce bétail est stocké dans tous les hameaux, les campements, ce qui fait que c'est une grande conséquence. Et on n'a pas une précision sur la fin réelle de cette décision. Ça fait aussi partie des choses qui nous inquiètent.
Des propos recueillis par Magali Lagrange. Le Niger, où une attaque djihadiste a coûté la vie à une quarantaine de soldats lundi sur le fleuve Niger. L'assaut visait une patrouille fluviale près du port de pêche de Boumba sur la rive droite du parc du W. La mort du commandant d'unité, pourtant habituellement positionné à l'arrière, témoigne de la violence de cet assaut. La zone du parc W à cheval entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso est sous l'influence du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM. Cette attaque survient seulement 2 jours après celle d'Ekna Nawan, qui avait déjà coûté la vie à 58 membres des forces spéciales. En Guinée-Bissau, quelques heures après le départ du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, c'est le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno qui est arrivé dans la capitale hier à la tête d'une forte délégation pour une visite officielle qui doit durer 24 heures. Les deux délégations ont mis en place une commission mixte pour travailler sur un accord cadre de coopération dans le domaine sécuritaire. Selon une source de la présidence, cet accord devrait impulser une nouvelle dynamique dans les relations entre le Tchad et la Guinée Bissau. Le président Déby Itno a été décoré de la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction du pays. Au Burkina Faso, le gouvernement a institué une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux différents examens scolaires. Cette immersion permettra d'inculquer aux élèves des valeurs civiques et patriotiques, selon le gouvernement, ainsi que des réflexes d'autodéfense à travers une formation théorique et sportive. Les autorités burkinabées ont apporté des précisions sur cette mesure dont la phase pilote concernera tous les élèves admis à l'examen du baccalauréat cette année. Les précisions avec Pierre Firsion.
Boubacar Savadogo, le ministre de l'enseignement secondaire, a tenu à rassurer les milliers d'élèves réunis hier dans un amphithéâtre de Ouagadougou. Cette immersion patriotique n'est ni une punition, ni une formation militaire, a-t-il assuré, avant de préciser qu'elle n'amènerait pas non plus à être directement un VDP. Lors de la phase pilote, les nouveaux bacheliers recevront, dans des établissements scolaires, une formation théorique et physique. Des cours sur la nation, le vivre ensemble, les valeurs civiques leur seront dispensés, ainsi que sur les comportements favorables au développement et sur les relations internationales. Ces modules constitueront un ensemble de valeurs destinées à préparer les élèves à entrer dans la vie active, avec une vision, souligne le ministre de l'enseignement secondaire, qui est donnée sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré. Les participants devront comprendre les choix idéologiques du pays, s'en inspirer, les défendre et ne pas se laisser abuser par les fausses informations, indique Boubacar Savadogo. Chaque participant recevra un certificat à l'issue de l'immersion, un document obligatoire pour s'inscrire à l'université. Égare aux récalcitrants, ceux qui refuseront de participer seront soumis à des poursuites judiciaires, prévient le ministre de l'enseignement secondaire.
Pierre Firsion, un mot du conflit au Soudan où les autorités alertent sur la diffusion du choléra. 172 décès ont été enregistrés en une semaine selon le Centre fédéral des opérations d'urgence, en grande majorité dans l'état de Khartoum. Hier, le syndicat des médecins avait estimé que le bilan réel se comptait en centaines de morts dans la seule capitale où les hôpitaux subissent d'importantes pénuries de matériel. Travail de mémoire en Namibie aujourd'hui. Pour la première fois de son histoire, le pays organise aujourd'hui des commémorations officielles du génocide commis par les forces allemandes au début du XXe siècle entre 1900 1904 et 1908. Le colonisateur a exterminé environ 80% du peuple Herero et la moitié des Nama, alors en pleine révolte. Considéré comme le premier génocide du XXe siècle, il a été reconnu par Berlin en 2021. Au programme aujourd'hui, veillez à la bougie, discours présidentiel et minutes de silence pour ces hommes et femmes exterminés. Et puis cette question maintenant au Togo, où se trouve le rappeur Amron ? Question posée sur les réseaux sociaux depuis hier par les utilisateurs et des organisations de la société civile. A-t-il été arrêté ? C'est ce qu'affirmait dans un communiqué la plateforme d'opposition DMP. Alors que plusieurs membres de la société civile essayaient de le localiser, l'artiste et activiste autocritique envers les autorités togolaises reste à ce jour recherché. Magali Lagrange.
Nom d'artiste, Amron. À la ville, Narcisse Tchala Essoué, natif de la région de Kara, suivi par 36 000 personnes sur un de ses comptes Facebook, le rappeur s'est fait connaître dans la musique en 2010 avec son album Black Boys. Ces temps-ci, c'est plutôt sur les réseaux sociaux qu'Amron est actif. Ce sont d'ailleurs les internautes qui ont commencé à donner l'alerte. La DMP, la Dynamique pour la Majorité du Peuple, affirme dans un communiqué publié hier qu'Amron a été arrêté par des gendarmes lundi soir à son domicile, citant plusieurs témoignages concordants. Dans une arrestation arbitraire, poursuit la plateforme d'opposition qui l'attribue à ses prises de position publiques. Le rappeur est réputé pour son ton critique sur des sujets comme la situation socio-économique du Togo ou les questions de gouvernance. Selon une organisation de défense des droits humains, Amron craignait depuis quelque temps une possible arrestation. Plusieurs organisations tentaient hier de savoir où il se trouve. La DMP rappelle aussi dans son communiqué le cas d'Honoré Sitsopé Sokpor, alias Affectio, détenu depuis plus de 4 mois suite à la publication d'un poème sur Facebook appelant les Togolais à s'indigner. Il est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État.
Et précision de Magali Lagrange. Et puis un mot pour vous dire que l'équipe nationale de Guinée ne jouera finalement pas de match amicaux contre le Niger et la Tunisie en juin prochain. Les rencontres sont annulées, a confirmé hier soir le gouvernement, les autorités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite d'RFI Matin avec Andréane Mellard.
Merci Pierre Boudias. À tout à l'heure.